Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1972. Chronique des Indiens Guayaquil est le premier livre de Pierre Clastre, issu de son enquête de terrain menée en 1963 et 1964 auprès des Achés, alors souvent désignés comme Guayaquil, dans le Paraguay oriental. Ce texte relève à la fois de la monographie ethnographique, du récit de présence et de la réflexion anthropologique. Clastre observe une population de chasseurs nomades confrontée à une rupture historique majeure, la réduction forcée de groupes auparavant mobiles, sous la pression des autorités, des colons et des dispositifs de pacification. Il décrit les gestes ordinaires, les déplacements, la chasse, la parenté, les rites, les conflits, les rapports aux morts et les formes de commandement. Le projet ne consiste donc pas seulement à inventorier des coutumes. Il cherche à comprendre la cohérence sociale et symbolique de pratiques, qui peuvent paraître étrangères aux catégories occidentales. La chronique demeure aussi un document sur les conditions difficiles de toute enquête, car elle montre une société déjà transformée par la violence coloniale et la sédentarisation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une enquête menée au moment où la mobilité hachée est brisée, le cadre historique donne au livre sa gravité particulière. Clastre ne rencontre pas une société isolée et intacte, mais des groupes hachés dont les possibilités de déplacement, de chasse et de reproduction sociale ont déjà été profondément altérées. La sédentarisation imposée ne représente pas un simple changement de résidence. Pour des chasseurs nomades, elle modifie les ressources accessibles, les rythmes de travail, les relations entre bandes et la dépendance envers les non-indiens. Le livre doit donc être lu comme l'observation de pratiques vivantes sous contrainte et non comme le portrait figé d'un monde antérieur à tout contact. Cette situation explique le mélange de précision ethnographique et de mélancolie qui traverse le texte. Les savoirs relatifs à la forêt, aux animaux, aux déplacements et aux règles collectives sont recueillis alors que leurs conditions matérielles d'exercice deviennent précaires. Clastre rend visible un processus de dépossession sans réduire les hachés au statut de victime passive. Leurs choix, leurs conflits, leurs rites et leurs paroles conservent une importance propre. Cette tension entre continuité culturelle et transformation forcée constitue un apport essentiel de la chronique. Elle rappelle aussi que les archives ethnographiques sont souvent produites au moment même où les sociétés étudiées subissent les effets les plus destructeurs de la domination. Extérieur. Deuxièmement, la chasse et le partage comme principe concret de la vie collective, la vie quotidienne décrite par Clastre est organisée autour de la chasse, de la cueillette, de la marche et du partage. Ces activités ne sont pas seulement des moyens de subsistance, elles structurent les rapports entre les personnes, les âges et les sexes. La chasse exige des compétences techniques, une connaissance fine de la forêt et une coordination collective, mais son produit ne relève pas exclusivement de celui qui a tué le gibier. La circulation de la viande inscrit le chasseur dans des obligations de générosité et de reconnaissance mutuelle. Ce point permet de comprendre pourquoi une analyse économique limitée à la rareté ou à la production manquerait une part décisive de la réalité sociale. Les objets, les aliments et les services ont une valeur relationnelle autant que matérielle. Clastre consacre également une grande attention aux charges différenciées du portage, de la préparation des ressources et de la mobilité. Ces descriptions évitent de présenter le nomadisme comme une existence abstraite ou idyllique, la fatigue, la faim, le danger et les déséquilibres démographiques y sont présents. En même temps, elles montrent comment une société peut faire tenir ensemble autonomie individuelle et interdépendance. La forêt apparaît moins comme un décor que comme un milieu socialement interprété, connu et sans cesse parcouru. Troisièmement, rite de passage. Sexualité et mort comme voie vers la logique hachée, la chronique examine des domaines que les observateurs extérieurs ont souvent traités avec sensationnalisme, initiation. Sexualité, relations matrimoniales, violence, meurtre et traitement des morts. Clastre cherche au contraire à les replacer dans un ensemble de règles, de contraintes et de représentations. Les rites de passage indiquent que le corps individuel devient progressivement un corps social, marqué par des capacités, des interdits et des attentes collectives. Les règles matrimoniales et les pratiques sexuelles ne peuvent pas être séparées des rapports entre groupes, des écarts numériques entre hommes et femmes, ni des formes de solidarité ou de rivalité. Le traitement des défunts occupe une place particulièrement forte, car il engage la relation entre les vivants, la mémoire et le danger attribué à la mort. Les descriptions de consommation rituelle des morts sont ainsi moins utiles comme signe exotique que comme question anthropologique comment une société organise TLA. Séparation avec ses disparus et protège-t-elle le monde des vivants? Cette approche ne demande ni approbation ni condamnation immédiate. Elle demande de suspendre les équivalences faciles entre différences culturelles et absence de normes. Le livre conserve cependant une difficulté. Certaines interprétations de Clastres sont très affirmées et reposent sur un matériau de terrain limité par le contexte. Le lecteur doit donc distinguer les observations souvent concrètes des synthèses plus spéculatives. Quatrièmement, une chefferie fondée sur la parole plutôt que sur la coercition, le livre éclaire des questions qui deviendront centrales dans la réflexion politique de Clastres. Il observe chez les Achées une chefferie qui ne correspond pas au modèle du commandement étatique. Le chef ne dispose pas simplement du droit de donner des ordres ni d'un appareil capable de contraindre les autres. Son rôle est lié à la parole, à la transmission de nouvelles, à la médiation et à une exigence de conduite reconnue par le groupe. Cette distinction entre prestige et pouvoir coercitif nourrit la critique clastrienne de l'idée selon laquelle toute société humaine progresserait nécessairement vers État. La chronique ne doit pourtant pas être confondue avec une démonstration systématique de la thèse de la société contre l'État, développée plus explicitement dans un ouvrage ultérieur. Ici, la matière ethnographique reste première scène de campement, décision collective, rivalité et rapport avec les Paraguayens. Cette matière montre que la politique peut se loger dans des institutions discrètes, dans le contrôle social de la parole et dans le refus pratique de la domination individuelle. Elle invite à séparer deux questions souvent confondues. Une société possède-t-elle des chefs? Et ces chefs peuvent-ils imposer durablement leur volonté? La portée du livre réside dans cette ouverture comparative, même si les généralisations de Clastres ont ensuite suscité des discussions critiques. En dernier lieu, une écriture ethnographique entre attention sensible et risque de romantisation, la singularité de chronique des Indiens Guayaquil tient aussi à son écriture. Clastres alterne descriptions minutieuses, épisodes vécus, analyse de mythes et réflexions sur sa propre position. Cette forme rend le livre plus accessible que nombre de monographies techniques et fait sentir la densité concrète de la vie dans les campements. La traduction anglaise de Paul Auster a contribué à la reconnaissance internationale de ses qualités littéraires. Toutefois, la force du style produit une difficulté critique, en donnant une grande cohérence à des gestes, des paroles et des institutions observées dans une situation historique instable. Le texte peut parfois transformer une pluralité de personnes en figures collectives unifiées. Des anthropologues ont ainsi jugé la méthode datée ou le cadre trop romantique. Cette critique ne retire pas sa valeur documentaire au livre, mais elle en précise les conditions de lecture. Il convient de prendre au sérieux la sensibilité de Clastres, tout en refusant de faire des Achées les représentants immobiles d'une passée perdue ou d'une alternative pure à la modernité. La meilleure lecture est donc double: reconnaître la qualité exceptionnelle de l'observation et interroger les catégories par lesquelles l'ethnographe organise son matériau. Cette vigilance permet de comprendre à la fois la puissance durable et les limites réelles de l'ouvrage. En conclusion, il intéressera aussi celles et ceux qui cherchent à comprendre comment les manières de vivre, de partager, de faire autorité ou de traiter les morts prennent sens dans un contexte matériel précis. Son bénéfice intellectuel principal est de défaire les évidences ni l'État, ni la hiérarchie coercitive, ni les catégories occidentales de la famille et de la morale ne peuvent être tenues pour des mesures universelles sans examen. Le livre aide également à percevoir comment la colonisation et la sédentarisation imposées agissent sur les formes concrètes de l'existence, bien au-delà de la seule perte territoriale. Il se distingue des études ethnographiques plus strictement académiques par la place accordée aux récits, aux détails sensoriels et aux interrogations de l'ethnographe. Il se distingue aussi des évocations simplement admiratives des peuples autochtones par son attention à des réalités difficiles, dont les conflits, les contraintes de survie et les pratiques funéraires. Cette combinaison rend la lecture marquante mais exigeante. Les lecteurs gagneront à la compléter par des travaux plus récents sur les Achées et par une attention critique aux généralisations de Clastres, lu ainsi. L'ouvrage reste un document majeur, non une image définitive d'un peuple, mais le témoignage dense, littérairement puissant et historiquement situé d'une rencontre ethnographique au cœur d'une destruction en cours. Si vous souhaitez soutenir Pierre Clastres, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.